à Rencontre Spirituelle aujourd'hui, en ce 16 mai. C'est la fête d'un prêtre séculier, Saint Jean de Nepomuk, qu'on appelle plus souvent Saint Jean Nepomucène, étrange nom, et qui est mort il y a déjà bien longtemps, il y a 600 ans, 1383. Il est classé comme étant un très grand martyr de la confession, c'est-à-dire du secret de la confession. Hein, quand on dit nos fautes à un prêtre, c'est un extraordinaire tombeau dans lequel nos péchés tombent, et c'est un tombeau qui ne s'ouvre pas. Le secret de la confession est extraordinairement bien gardé. Hein. On peut en être extrêmement reconnaissant à nos prêtres. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. À pareille date, l'an dernier, le 16 mai, je vous avais fait une mission spéciale qui avait beaucoup plu. La foi chrétienne contribue-t-elle au bonheur de l'homme? Et j'avais hésité de faire ce saint. Aujourd'hui, je le fais donc, Saint Jean Nepomucène. Il est né... En 1330, dans un village de Bohême, à l'ouest de la Tchécoslovaquie, ça faisait partie de la Tchécoslovaquie, la Bohême, qui s'est séparée en deux, vous savez, il y a la Tchéquie et la Slovaquie maintenant, sont séparés très calmement, très simplement. Et c'est en somme donc la Bohême près de l'Allemagne et de l'Autriche. Et tout le monde connaît la ville principale de la Bohême, qui est Prague. Jean Nepomucène a été tout à la fois un apôtre, puis un martyr. Sa mère était plutôt âgée quand il est venu au monde. Elle disait à tout le monde qu'elle l'avait obtenu de Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, en qui elle avait une très grande confiance. On raconte même que des flammes merveilleuses sont apparues au-dessus de son berceau. C'était comme le présage de cette lumière de grâce, écrit-on dans les textes anciens, qui va briller en lui, sur cette terre, puis de la lumière de gloire aussi qui l'attendait dans l'autre monde au ciel. On avait des visions des choses et des naissances dans ce temps-là qui sont un peu légendaires. Hein? Mais c'est possible, qui sait? On ne sait pas. Il a été sauvé d'une maladie mortelle, ça on le sait, par la protection de la Mère de Dieu. Et puis, il est aussitôt consacré à Dieu par ses parents. Dans l'église d'un monastère de cisterciens, on dirait aujourd'hui presque de trappistes. Je vais vous parler mercredi prochain de ces trappistes qui ont été assassinés il y a un an en Algérie. Et malgré leur pauvreté, les parents de Saint Jean, Nepomucène, n'ont rien épargné vraiment pour lui donner une excellente éducation et ça a très bien marché. Parce que c'était un garçon qui avait de grandes qualités, qui était brillant, intelligent et sincère. Il avait aussi un grand fond de douceur. Il était docile à ses maîtres, à ses parents. On pourrait dire même qu'il était, disons candide, pas nécessairement candide, mais qu'il avait une candeur chez lui qui attirait tout le monde. Puis il avait une bonne piété, c'était un enfant pieux, sans exagération, quoi. Alors il fait ses études, ses humanités, on aurait dit il y a quelque temps son cours classique, ses humanités, donc avec beaucoup de succès, une grande distinction. Il achève ses études à Prague, dans cette très belle ville de Prague, l'une des plus belles villes du monde, où il devient docteur en théologie et en droit canon. Alors il se prépare au sacerdoce par une retraite d'un mois, une longue retraite, sérieuse. Et à peine ordonné, son évêque lui confie la prédication dans une paroisse consacrée à Notre-Dame. Alors il obtient tout de suite des résultats admirables. C'est un prédicateur né. Il a le sens de la communication, mais ça tient aussi à sa candeur, sa douceur, les grandes qualités d'esprit, la bonne formation et sa piété profonde. Un prédicateur qui n'est pas pieux profondément a beaucoup de difficultés à prêcher, j'imagine. Alors les étudiants en grand nombre courent à ces sermons. Et les plus éloignés de la religion, pour la plupart, se convertissent. Ces jeunes gens éloignés comprennent enfin ce que l'Église leur enseigne pour être heureux. Parce qu'ils ne l'avaient pas vraiment entendu avant, ça n'avait pas rejoint leur cœur. Et c'est ce qui manque souvent aux jeunes, ils n'ont jamais été atteints et saisis. Tout à coup, un poste de chanoine à la cathédrale devient vacant. Un poste de chanoine à la cathédrale, vous direz qu'est-ce que c'est, certains d'entre vous, peut-être. Faut bien savoir que même encore aujourd'hui, je pense que ça existe encore dans certains pays. Des chanoines qui se réunissent, il y en avait à Québec il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si ça existe encore, des hommes assez âgés, des prêtres qui sont chanoines, pardon, qui récitent l'office comme des moines dans un monastère, se réunissent à la cathédrale plusieurs fois par jour. Alors l'archevêque, puis le chapitre des chanoines, c'est-à-dire l'ensemble des chanoines de Prague, lui donne le poste vacant. Et le chanoine Jean, donc jeune chanoine, fidèle à l'assistance au cœur, trouve encore du temps pour travailler à ce qui l'intéresse vraiment, sauver les âmes. Mais Venceslas, il s'agit de Venceslas le IVe, dit le fainéant ou l'ivrogne, qui est né en 1359 et qui est mort en 1419 après une vie épouvantable. Et je me demande si tout ce qu'on raconte sur cet empereur, ce roi, et roi de Bohême, n'est-ce pas, en 1363, donc à 4 ans, et empereur germanique de 1378 à même pas 20 ans, jusqu'à 1419, si tout ça est vrai, c'est effrayant. On raconte, en tous les cas, dans certains livres, que cet empereur Venceslas, W-E-N-C-E-S-L-A-S, Venceslas, se promenant dans la rue avec un bourreau, lui ordonnait de trancher la tête à quelqu'un qui ne lui revenait pas. Alors Venceslas, fils et successeur de Charles IV, résidait à Prague. Il entend parler avec éloge du nouveau chanoine Saint-Jean-Nepomucène, et il veut le connaître. Alors, il lui fait prêcher l'Avent, vous savez, les 4 semaines avant Noël, à sa cour, tous les gens qui l'entourent. La mission, c'était difficile, c'est périlleux de faire ça, auprès d'un jeune roi qui est enivré par le pouvoir. Parce que Venceslas se livrait, on peut dire, aux passions les plus dégradantes. Il était corrompu par la flatterie, il était dégradé jusqu'à mériter plus tard, comme je vous ai dit, le surnom de fainéant et d'ivrogne. Cependant, chanoine Jean accepte d'aller prêcher car il veut aider ces gens-là. Et son exemple, ses prédications, arrêtent pour un certain temps certaines des horreurs de Venceslas. Mais ce roi ne peut lui faire accepter des nominations, il veut le nommer évêque. Venceslas, dans son humilité, considère ses dignités, comme on les appelle, dignités ecclésiastiques. Il n'ose pas, il ne veut pas être évêque, il veut être simple chanoine, s'occuper des pauvres. Et puis, il n'accepte la place d'aumônier de l'empereur, en somme, que pour instruire les gens de la cour avec plus d'autorité, puis mieux satisfaire, au fond, cette grande tendresse qu'il a pour les pauvres. Cette place, comme ça, d'aumônier à la cour lui assure les mêmes amis que ceux des saints dans un sens. Ceux qui ont peu de foi, ont de la misère à la garder à cause des richesses et des honneurs. Et puis, les pauvres. C'étaient les amis de Jésus, hein, qui fréquentaient les gens à l'aise et qui aimaient les pauvres. Son appartement à ce chanoine devient le lieu de rendez-vous des pauvres. Il est leur défenseur, puis leur père. La paix, puis la charité, on peut dire, débordait de son cœur. Pour calmer les esprits, assoupir, comme on dit, les querelles, puis arrêter les procès aussi, faire que des ententes plutôt que des procès. Or, la femme de Venceslas, l'impératrice Jeanne, fille d'Albert de Bavière, et touchée par la sincérité de Saint Jean Nepomucène, elle le choisit pour directeur de conscience. Or, Dieu, pour sanctifier cette impératrice, permet que son mari, qui l'aimait avec passion, devienne jaloux et soupçonneux. Et Venceslas devient à son égard de plus en plus brutal. Il a entendu dire qu'elle le trompait, ce qui était tout à fait faux. Elle a évidemment grand besoin d'un saint pour la consoler et la conduire. Et la direction spirituelle de Saint Jean Nepomucène a les plus heureux résultats sur l'impératrice. Elle devient de plus en plus recueillie à l'Église. Elle fait l'admiration de tout le monde. Elle pratique l'oraison. Et ses prières ne sont interrompues, si on peut dire, que par les temps, les moments là, qu'elle emploie à aider des pauvres. Vous vous demandez comment ces gens font pour prier longtemps, souvent. Il vient de paraître aux éditions Médiapol un beau livre, excellent, « Comment faire oraison », un itinéraire sur les traces de Thérèse d'Avila, qui est le grand professeur de l'oraison, hein, Thérèse d'Avila. C'est un livre de Guido Stinissen, un carme. Et ce carme a le don d'expliquer en moins de 100 pages comment faire oraison. Ça vient tout juste de paraître. Je ne saurais trop vous le conseiller. Chez Médiapol, c'est pas cher, hein? Alors donc, elle a prié, cette impératrice. Et elle tient à servir les pauvres de ses propres mains. Ses conversations avec les dames de la cour portent sur des vérités éternelles. Elle y mène sincérité qui provient de ce qu'elle est toute remplie de l'amour de Dieu. Puis elle entretient ce feu sacré, là, évidemment par la fréquentation des sacrements, hein, mais aussi par de petites mortifications de tout genre, des choses simples. Mais la crainte surtout de déplaire à Jésus qu'elle aime. Elle aime Jésus, puis elle ne veut pas lui déplaire. Ça lui fait fuir, dit-on, jusqu'à l'ombre du péché. Elle recourt souvent au sacrement de pénitence. Et elle en sort parfois les yeux baignés de larmes. Elle pleure parfois. Ça arrive, ça, hein? La joie du sacrement de pénitence est énorme. Le confessionnal, c'est rempli de la lumière de Dieu. Un confessionnal, on dit que c'est sombre. C'est pas vrai. C'est rempli de la lumière de Dieu. Et elle semble pleurer les égarements de l'empereur, son mari surtout. Hein. Elle demande à Dieu qu'il revienne à la vraie foi, qu'il n'a vraiment jamais pratiquée. Elle essaie de le gagner par toutes les marques de tendresse. Elle se soumet à lui avec beaucoup de gentillesse, mais lui, de son côté, il répond que par des soupçons, il l'outrage, il fait épier ses actions les plus saintes. Il veut découvrir tout ce qui pourrait avoir l'air d'être coupable. Et le démon qui l'obsède, cet empereur, lui suggère un projet épouvantable, aussi nouveau qu'extravagant, de se faire révéler par le chanoine Saint-Jean Nepomucène tout ce que l'impératrice lui a dit dans le secret de la confession. Et d'abord, il procède par des questions indiscrètes. Puis là, d'un ton décidé, il s'explique plus clairement, et Jean Nepomucène est saisi d'horreur. Il dit à l'empereur, respectueusement, combien ce projet choque le simple bon sens, que c'est contraire à la religion catholique. Mais Venceslas, accoutumé à voir tous ses caprices respectés comme des lois, est outré de voir cette résistance à laquelle il doit pourtant s'attendre, alors il dissimule son ressentiment, puis il congédie Saint-Jean Nepomucène très calmement, en gardant une sorte de silence qui est plutôt inquiétant. Il veut vraiment que Saint-Jean Nepomucène livre le secret de la confession. Alors, quelque temps après que l'empereur ait congédié Jean Nepomucène, on sert sur la table de ce prince épouvantable un rôti qui a été manqué. Alors, Venceslas, qui se prend pour Caligula, ordonne de mettre, c'est épouvantable, de mettre à la broche le malheureux cuisinier pour le faire rôtir à petit feu. Les courtisans n'osent pas dire un mot tellement ils en ont peur. Saint-Jean Nepomucène en est informé. Il accourt. C'est un véritable Saint-Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de l'histoire de Saint-Jean-Baptiste? Il veut arrêter ce crime épouvantable et monstrueux. Alors il est jeté dans un cachot. Et il y a un ordre qui tombe. Défense de lui donner de la nourriture. Mais rien n'y fait. Il est décidé, Saint-Jean Nepomucène. Alors, on lui fait des promesses de toutes sortes. Rien n'ébranle son courage. Au bout de quelques jours, l'empereur le fait libérer, puis l'invite même à dîner, pour lui témoigner, dit-il, son estime, son amitié. Il n'aurait pas terminé. Venceslas congédie tout le monde et retient près de lui le chanoine Jean. Tout seul, à ses côtés, il lui parle d'abord de choses indifférentes, puis il emploie ensuite tous les moyens possibles pour l'engager à découvrir le secret de la confession de l'impératrice. « Vous pouvez, dit-il, compter sur un secret inviolable. » « Si vous vous soumettez à mon désir, mon père, je vous comblerai de richesses et d'honneur. Si vous vous y refusez, vous devez vous attendre à tout, même à la mort. » Alors, Saint-Jean Nepomucène répond sans hésiter. « En cette matière-là, Majesté, vous empiétez sur les droits de Dieu, à qui seul appartient le discernement des consciences, et en toute autre chose, vous commandez. Commandez-moi, je vous obéirai en toute autre chose. Mais en ceci, j'ose dire à votre majesté ce qu'a répondu Saint-Pierre au prince des prêtres. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, devant l'inutilité de ces tentatives, l'empereur Venceslas, dans sa fureur, fait reconduire Saint-Jean Nepomucène en prison et ordonne de le traiter avec la dernière cruauté. Qu'est-ce qu'on lui fait? C'était terrible à cette époque. On le suspend sur le chevalet. J'aime mieux ne pas vous décrire, c'est terrible. Application des torches ardentes sur les côtés. Et pendant tous ces supplices, Saint-Jean Nepomucène répète les noms de Jésus et de Marie. Jésus le visite ensuite dans sa prison et remplit son âme de consolations très douces, de douces douceurs, comme dirait Saint François d'Assise. Et cependant, l'impératrice va implorer l'élargissement de son directeur de conscience. Jean Nepomucène reparaît donc à la cour. Elle a obtenu ça. Mais il prévoit, Saint Jean Nepomucène, bien que le calme ne soit pas de longue durée, il prévoit toutes sortes de choses. Il a su par révélation qu'il va mourir bientôt. Il se prépare à recevoir ce qu'on appelle la couronne du martyr. Il se rend à l'église, se remet à prêcher avec plus d'enthousiasme que jamais. Puis, il aperçoit dans l'avenir ce que Dieu lui montre. C'est terrible. Il en pleure. Alors il prédit en sanglotant devant le monde que l'enfer va vomir sur la Bohème des malheurs terribles. Et ce sont des prédictions comme on en entend de nos jours un peu. Vous savez, toutes ces prédictions, on n'en finit plus. Ne vous laissez pas prendre par toutes ces prédictions. Soyez calme. Attachez-vous à l'Évangile. Attachez-vous aux soins des pauvres. Attachez-vous au sacrement. Restez calme, ne lisez pas toutes ces choses. Alors lui, bien, dans une vision, il voit que l'enfer va vomir sur la Bohème, donc, comme je vous ai dit, des abominations, des malheurs terribles, les autels vont être profanés, le sanctuaire anéanti, la cathédrale de Prague, l'usage des sacrements abolis. Comment ça, l'usage des sacrements abolis? Bien oui. Les conseils évangéliques méprisés, c'est-à-dire d'être complètement chaste, de vivre dans le célibat, quoi, quand on est prêtre, religieux, religieuse. Les monastères réduits en cendres, parce que justement on en voudra aux moines. Les religieux égorgés. Les lois divines et humaines foulées aux pieds. Tout ça à cause d'une réforme hérétique. 30 ans après, ces paroles ne sont que trop réalisées. C'est un prêtre réformateur, sans doute dégoûté de certains aspects de la décadence de l'Église catholique. C'est Jean Hus. Il a toujours des gens qui suivent Jean Hus de nos jours. J'en ai rencontré. On les classe comme des pré-protestants. Et c'était des gens extrêmement gentils. On les appelle les Hussites. Donc le prêtre Jean Hus et ceux qui le suivent répandent leur hérésie dans ces régions et Jean Nepomucène, avant de descendre de chair, dit un dernier adieu à son auditoire. Il demande pardon aux chanoines et aux clercs de tous les mauvais exemples qu'il a pu leur donner. Et à partir de ce jour-là, il ne songe plus qu'à obtenir la grâce d'une bonne mort. Persuadé que cette grâce s'obtient surtout par Marie, il va à Brunsel visiter la célèbre image de la Sainte Vierge que Saint Cyrille et Saint Méthode ont apportée avec la foi chrétienne en Bohême au IXe siècle. Il lui demande que, comme elle a obtenu de Dieu sa naissance, vous savez, je vous ai raconté ça, que sa mère était âgée quand il est né, et comme elle a veillé sur son berceau et l'a conduit par la main dans des moments très difficiles, bien, elle accepte de bien le soutenir encore aujourd'hui, en l'aidant à traverser la mort, et en l'amenant avec elle auprès de Jésus, son sauveur, au ciel. Et comme il rentre dans Prague sur le soir, Venceslas, qui est à sa fenêtre, l'aperçoit et le fait amener. Et sans lui donner le temps de parler, il lui dit brusquement qu'il n'a qu'à opter entre mourir ou révéler les confessions de l'impératrice. Saint Jean regarde son bourreau avec un visage calme et sévère, sans daigner lui répondre. Alors l'empereur Venceslas est enragé. Et là, il est plus capable de se contrôler, puis il s'écrie « Qu'on m'ôte cet homme de devant mes yeux et qu'on le jette dans la rivière, aussitôt que les ténèbres seront assez épaisses, le soir sera tombé, n'est-ce pas, pour dérober au peuple la connaissance de l'exécution. Il veut pas que le peuple s'en rende compte. » Mais Saint Jean emploie donc ses dernières heures à se préparer. On le précipite pieds et mains liés dans la molle d'or. Vous connaissez ça, la Moldau, hein? C'est la rivière qui sépare la petite Prague de la grande Prague. C'est une ville divisée en deux par un... Et puis, un peu comme Paris, si vous voulez, par la Seine. Alors, il est jeté du haut du pont. Et puis, ce pont existe toujours, hein? On le traverse d'ailleurs qu'avec une grande vénération, puis beaucoup d'habitants de Prague conservent encore aujourd'hui cette coutume très pieuse de se découvrir devant le lieu où a été tué Saint-Jean-Nepomucène. Quand? C'était le 16 mai 1383, en la veille de l'Ascension à ce moment-là, dit-on. Il y a donc plus de 600 ans. Et aussitôt, des feux, dit-on, sont apparus sur la rivière. On aperçoit une infinité d'étoiles d'une clarté merveilleuse, et cependant, le corps du saint descend doucement le cours de l'eau, accompagné de nouvelles clartés. Encore plus étonnante, il semble que des flambeaux lumineux le suivent et le précèdent dans un ordre admirable. Et là, toute la ville de Prague accourt pour voir ce prodige. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Et aujourd'hui, il est question d'un saint qui a été martyrisé parce que prêtre, il n'a pas voulu révéler le secret de la confession de l'impératrice de Bohême, d'Allemagne, dont il était, ou germanique, comme on disait, dont il était le confesseur, le directeur de conscience, et justement l'impératrice va demander à Venceslas ce que tout ça signifie, cette foule qui accourt près de la Moldau, sur le pont, pour voir cette lumière, ces lumières et tout ça. Alors, frappé de terreur, l'empereur, qui s'est constaté les phénomènes, se cache en dehors de Prague, avec défense de le suivre. Il lui semble avoir sans cesse devant les yeux le corps de sa victime, Saint-Jean-Nepomucène, ce prêtre assassiné. Il la voit, la victime, éclairée par les feux du ciel, comme on dit. Quelques années après, il perd son trône, puis la couronne impériale. Et puis, il va être réinstallé, puis il y a plus tas de problèmes. Il va finir par mourir d'apoplexie au milieu de ses désordres en 1419. Puis il n'a même pas cherché à se réconcilier avec Dieu, c'est dommage. Mais l'impératrice, elle, inconsolable d'un crime dont elle est la cause involontaire, a pleuré son Saint-Jean-Nepomucène jusqu'à sa mort qui arrive en 1387. L'empereur s'est remarié par la suite. Les restes de ce grand martyr ont été apportés par les eaux, dit-on, sur la plage. Ils ont été d'abord déposés dans l'église Sainte-Croix des religieux de la pénitence. Puis ont été transportés à la cathédrale au milieu d'une grande foule. Puis il a fallu rouvrir le cercueil pour satisfaire les gens qui voulaient une dernière fois contempler les traits du martyr. Plusieurs malades, dit-on, ont retrouvé la santé. Sur le tombeau ont été gravés une épitaphe, comme on fait. Hein. Je vous la lis. Ici est enseveli le très vénérable Jean-Nepomucène, docteur chanoine de cette église, confesseur de la reine, illustre en miracle, qui pour avoir gardé le sceau sacré de la confession, fut cruellement tourmenté et précipité du pont de Prague dans la rivière de Moldau, par les ordres de Venceslas IV, l'an 1383. Alors, nombreux sont tous les miracles dont Dieu a honoré Saint-Jean-Nepomucène. On raconte qu'une femme nommée Catherine Frolanta était tombée la nuit dans un puits très profond. Alors, elle s'est sentie soulevée hors de l'eau jusqu'à la poitrine par notre saint qu'elle invoquait. Puis, elle a vu le bord du puits tout illuminé. À la faveur de cette lumière, elle a aperçu une poutre qui lui a servi d'appui jusqu'à ce que ses cris soient entendus. On raconte aussi que les plus illustres familles d'Allemagne ont été redevables à Jean-Nepomucène d'une foule de grâce. On dit que c'est par son intercession que Charles d'Altan, archevêque de Bari, a été préservé de tout mal dans l'écroulement d'un balcon du palais Colonna, etc., etc. On dit aussi que les empereurs d'Allemagne et de la maison d'Autriche le regardaient comme leur protecteur. Hein? Ferdinand Ier, on dit, n'entrait jamais dans Prague sans s'agenouiller devant son tombeau. Il y priait avec ferveur. et ses empereurs et ses princes de la maison d'Autriche. Se sont montrés longtemps reconnaissants à leur saint patron de la victoire qui avait été remportée en 1620 sur les murs de Prague pour le recouvrement du royaume de Bohême, dit-on. En reconnaissance, ben, les princes de la maison d'Autriche ont obtenu enfin, c'est pour ça que je vous ai raconté ça, ils ont obtenu, c'est eux qui ont obtenu la canonisation de Saint-Jean-Nepomucène, et c'est Benoît XIII qui l'a canonisé en 1729. Il y a une protection spéciale de Dieu. On dit que sauver le tombeau des profanations de ces pré-protestants que sont les Hussites, puis celles ensuite à l'ère protestante, des calvinistes disent les uns, des luthériens disent les autres, car les protestants voulaient détruire souvent les tombeaux des saints parce qu'ils trouvaient que les catholiques exagéraient dans leur dévotion aux saints et recourait au saint plutôt que de recourir à Dieu, tel que la messe nous l'enseigne, tel que les sacrements nous l'enseignent, et qu'il y avait là une grande déformation de la part des chrétiens catholiques qu'ils avaient quittés pour réformer le christianisme. Il faut les comprendre. Moi, je ne leur en veux pas d'avoir détruit des tombeaux de saints. C'était leur perspective et leur façon de voir les choses, mais je trouve regrettable qu'ils l'aient fait dans un sens. Et le 14 avril 1619, on a ouvert le tombeau de Saint-Jean-Nepomucène, et le corps était, dit-on, dégarni de ses chairs, mais les os étaient encore entiers, parfaitement joints. Et la langue que Dieu a voulu honorer particulièrement pour avoir fidèlement gardé le secret de la confession, s'est trouvée sans autre corruption, dit-on, aussi fraîche, aussi vermeille, aussi souple que la langue d'un homme vivant. Et on raconte qu'on la vénère encore dans le même état aujourd'hui, renfermée dans un riche reliquaire. Mais j'ai lu quelque part d'autre qu'elle avait changé un peu de teinte et qu'elle n'était plus pareille. Mais ça dépend des auteurs. On dit que cette langue est comme un monument du soin particulier que Dieu a toujours pris, soin d'empêcher que les confesseurs ne révèlent les secrets qu'ils entendent dans un confessionnal ou en confession. Que les ministres du sacrement de pénitence prennent pour eux, ce texte de Saint-Augustin, disent les bénédictins, de Paris, dans un ouvrage que j'ai consulté, il rapporte cette parole de Saint-Augustin, c'est très bon pour tous les prêtres. « Ce que je sais par la confession, je le sais moins que ce que je ne sais point du tout. » Je répète, c'est un peu compliqué. « Ce que je sais par la confession, je le sais moins que ce que je ne sais point du tout. » C'est très beau, hein? Et une église a été construite sur la maison paternelle, puis un hôtel marque le lieu de la naissance de Saint-Jean-Nepomucène. Puis à la cathédrale de Strasbourg, on lui a dédié un hôtel au-dessus duquel il y a un tableau qui représente sa mort. Terrible, n'est-ce pas? Et à la place du tabernacle, il y a un reliquaire qui contient de ses ossements. Sur beaucoup de ponts en Allemagne, puis en Alsace même, en France, se trouve sa statue que les passants saluent, comme à Prague, avec beaucoup de respect. Mais au sujet de Saint-Jean-Nepomucène, dont je viens de vous résumer la vie telle qu'elle nous est racontée, il y a des difficultés qui ont été soulevées au XXe siècle. Là, je vais vous décevoir. Tout le monde s'accorde sur un point, à savoir que l'archevêque de Prague, qui s'appelait Jean de Wenzenstein, et qui a été archevêque de 1381 à 1396, a eu un vicaire général du nom de Jean de Pomuk ou de Nepomucène. Bon. Entre les années 1372 et 1393, le nom de ce vicaire général, qui devait être chanoine, j'imagine, revient souvent dans les archives métropolitaines. Il signe les fondations de Jean Velfini, ou fils, si on veut, de Pomuk. Il était docteur en droit, justement, comme l'autre, grand vicaire en 1389. Or, on dit que le saint est mort en 1383. Lui est grand vicaire en 1389. Il est devenu archidiacre de Sens, S-A-N-Z, en 1390. Puis, comme tel, il est devenu chanoine de Prague, ad extra, c'est-à-dire chanoine d'un endroit qui s'appelait Wiskraft. Mais non pas seulement de titulaire de résidence. C'est un peu différent. On relève sa signature de vicaire général dans plusieurs actes judiciaires. On ne sait pas si le nom de Pomuk désigne la ville où il est né ou seulement l'origine de sa famille. De toute façon, c'est pas important. Mais en 1393, donc 10 ans après l'autre, il s'appelait Jean-Nepomucène lui aussi, il a été torturé et jeté dans la Moldau, la même chose, par ordre de l'empereur d'Allemagne, roi de Bohême, Venceslas le Fainéant, ou l'ivrogne dont je vous ai parlé, pour avoir confirmé contre la volonté de l'empereur l'élection d'un nouvel abbé du monastère de Kladru. Bon, c'était donc la lutte entre la liberté de l'Église et le pouvoir impérial qui voulait nommer les abbés pour satisfaire peut-être des familles. Hein, il nommait un abbé pour plaire à un dignitaire dont c'était le fils. Et ce fait est raconté en détail dans une plainte que l'archevêque a adressée au pape Boniface IX. Et longtemps après la mort de ce vicaire général, il y a eu des messes de requiem qui ont été célébrées pour le repos de son âme dans la cathédrale de Saint-Vif. Et on retrace tout ça. Rien de certain n'a été rapporté sur la découverte de son corps dans les eaux du fleuve, mais il est enterré dans la cathédrale. Et le nom de martyr ou de bienheureux lui est attribué 3 fois dans le cours des siècles. Il est dans la plainte de l'archevêque au pape, il est qualifié de bienheureux. Dans la vie de ce même archevêque, là, écrite par un chanoine régulier aussi, c'est dit qu'il est bienheureux. Dans une lettre aussi, bon, peu importe. L'archevêque, dans la plainte dont l'original est aux archives du Vatican, raconte que son vicaire général a été martyrisé, jeté dans la Moldau, par ordre de Venceslas, pour avoir confirmé le nouvel abbé, le de Kladro, sans attendre le consentement du roi. Puis il ne parle nullement du secret de la confession. Peut pas mention d'un autre Jean-Nepomucène qui aurait été martyrisé 10 ans auparavant par le même prince. On retrouve aucune trace. Comment ça se fait? Et depuis le milieu du 18e siècle, l'opinion s'est peu à peu établie parmi les catholiques d'Allemagne qu'il y a eu une erreur. Imaginez. Je m'excuse, là, mais c'est scientifique. Il faut être franc. Nous, les catholiques, on cache rien, n'est-ce pas? Il y a eu une erreur dans le procès de canonisation. C'est ça que les Allemands, les catholiques d'Allemagne disent. Et qu'on ne doit pas admettre, comme le procès le suppose, 2 personnages du nom de Jean de Nepomucène. Tous les 2 chanoines de Visegrád à la même époque. Tous les 2 précipités dans la Moldau par ordre du même roi Venceslas. L'un en 1383, là, la veille de l'ascension le 16 mai, et l'autre en 1393, tous les 2 ayant leur tombeau dans l'église de Saint-Vif, la cathédrale, et tous les 2 qualifiés de saints de bienheureux. Non, il n'y aurait eu qu'un seul Jean-Nepomucène, vicaire général de l'archevêque de Prague, et martyrisé non pas en 1383, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en 1393. Et la cause réelle, mais secrète, de son martyre aurait été le refus de révéler le secret de la confession de la reine. Bon, peut-être. La cause officielle, avouée et connue de tous, aurait été la confirmation de l'abbé de monastère. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais le dédoublement rencontre encore d'autres difficultés si on analyse les textes anciens. Le Jean-Nepomucène, mort en 1383, dont je vous ai raconté toute la vie, là, ne nous est connu que par des documents plutôt tardifs, dont les plus sûrs sont aussi les plus éloignés des faits. C'est au milieu du 15e siècle, donc 100 ans plus tard, ou presque, que Venceslas est accusé pour la première fois d'avoir, 70 ans auparavant, noyé un chanoine de Prague qui refusait de violer le secret de la confession. On dirait que c'est une histoire inventée 70 ans après. À cette date de 1450, Saint-Jean-Nepomucène n'est pas encore signalé dans l'histoire comme le confesseur de la reine. En 1476 seulement, soit 20 ans après 1450, il reçoit ce titre pour la première fois. Comment ça se fait? Il faut descendre jusque vers 1670 pour voir apparaître enfin une biographie détaillée que je vous ai racontée tout à l'heure. Alors, pas de dédoublement des personnages. Le martyr, finalement, du secret de la confession, canonisé par l'Église, je m'excuse, mais il n'y aurait pas existé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai raconté une fausse histoire? Rome aurait été mystifiée par des documents fantaisistes. La légende qu'on en a tirée serait donc une déformation de l'histoire de Jean Nepomucène, noyé pour son attachement à la liberté de l'Église, pour la nomination des abbés de monastères et des évêques. Et les adversaires de l'Église ont remarqué que l'empereur Venceslas avait favorisé le mouvement hussite, là, les pré-protestants, combattu par la même le dogme de la confession dont Jean Hus était l'adversaire. Il n'acceptait pas, lui, la confession auriculaire et ce ministère des prêtres. Alors, la déformation aurait eu pour but, dans l'esprit de ses auteurs, de rendre odieuse la conduite du roi de Bohême, Venceslas. Ça aurait eu pour but aussi, écoutez bien, de relever le prestige de la confession catholique en l'entourant de l'auréole du martyr. Donc, c'est une invention de bon aloi, c'est pas fait par méchanceté, là. Mais il est bon de remarquer que cette question ne touche en rien à la foi. C'est très important, ça touche en rien à la foi, tout ça. Dites-vous bien ça. Car l'exemption d'erreur là, dans les causes de canonisation ne porte que sur la sainteté du personnage. Non sur les détails des dates, des fonctions, des miracles, etc. Tout ça n'a pas au fond d'importance. Le Jean Nepomucène, il y en a eu un, il était vicaire général. Il est mort martyr, mais c'est pas pour le secret de la confession. L'histoire est très belle, je vous l'ai racontée. Elle vaut tout ce qu'elle vaut, elle vaut admirablement bien, c'est très beau. Et je vais revenir, après avoir écouté un peu de Roland de Lassus, sur la grandeur du sacrement de la réconciliation qu'on appelait le sacrement de la pénitence. Je vous ai parlé du secret de la confession. Je vous recommande de lire de Max Turian, un frère protestant de Thésée qui s'est converti, qui est mort catholique il y a si peu de temps, son livre très intéressant publié à Thésée, La Confession, le sacrement de la réconciliation. Il écrit au début qu'il faut être reconnaissant au frère Max Turian de nous rappeler que les fidèles des églises protestantes éprouvent une vive surprise lorsqu'ils apprennent qu'au jour de leur consécration ou de leur ordination, les pasteurs s'engagent, ouvrez les guillemets, à tenir secrètes par devers eux les confessions qui leur seront faites en décharge de conscience. C'est-à-dire que les pasteurs protestants sont tenus au secret de la confession. Il y a de très beaux livres sur l'examen de conscience qui sont parus il y a bien des années par le père Lebray. Il y avait le beau livre de Don Claude Jean-Émy paru il y a très longtemps. Ah, magnifique. Sur la pratique de la confession, puis le père Rémermet, laissez-vous réconcilier. Il y a tellement de choses admirables qui ont été publiées à travers les temps sur la confession, que je me prends à vous dire que quand on entre dans un confessionnal, disons-nous bien que quand on s'agenouille, là, c'est merveilleux, car la petite lumière qui passe à travers la grille, quand la grille s'ouvre, c'est l'aurore d'un jour nouveau, le jour de Dieu. Si on s'ouvre à la grâce, parce que reconnaître loyalement ses fautes, c'est bien plus profondément se reconnaître humblement comme pécheur, hein. Et puis ça, c'est s'ouvrir à la grâce du pardon, en éprouvant que nous avons besoin de Jésus, d'un sauveur. C'est pas si facile de dire en toute vérité, puis dans l'Esprit Saint, Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur. On le dit comme ça, on le répète, vous savez, c'est une coutume qu'on a de plus en plus, qui nous vient des Russes orthodoxes. Pardon. Même si nous reconnaissons notre péché, nous éprouvons toujours plus ou moins... On est orgueilleux, hein, le désir de nous en sortir tout seul. Or, s'ouvrir à la grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que c'est accepter de se présenter devant Dieu les mains vides, comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Ou bien, si vous voulez, les mains sales, selon l'expression de Sartre. Parce que lui-même peut nous purifier. et nous transformer. Notre volonté de nous suffire à nous-mêmes, puis nous purifier nous-mêmes, doit tomber. Ça doit disparaître, ça. Il suffit pas d'admettre un sauveur en général pour l'humanité en général. Là. Il faut que j'admette le sauveur Jésus pour moi-même. Que je l'accepte personnellement pour moi. Parce que ma façade intérieure de respectabilité, là, ça doit s'écrouler, ça. Puis avec elle, ma petite prétention à réclamer justice au lieu d'implorer miséricorde. C'est bien beau de dire, oh, j'ai fait ça parce que, non, non. Faut demander que l'amour de Dieu m'enveloppe. Faut donc accepter humblement d'être devant Dieu comme un débiteur insolvable, d'être perpétuellement devancé par Dieu en générosité puis en amour, oui. C'est lui, nous dit Saint Jean, qui nous a aimés le premier dans la création. Alors que nous n'étions pas encore d'ailleurs, n'existait même pas. C'est lui, le premier, à nous secourir, alors que nous étions méchants, que nous sommes méchants, pour que nous soyons bons. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est bien dit, il nous a aimés alors que nous étions morts par suite de nos fautes. C'est lui, ce n'est pas nous qui a fait le premier pas. Et reconnaître cela, c'est précisément reconnaître la grâce. C'est reconnaître Dieu comme amour, qui nous prévient là, sans cesse, qui se donne à nous gratuitement parce qu'il nous aime. On le trouve comme ça au confessionnal. Et non parce que nous aurions quelques droits là, à faire prévaloir devant lui. C'est pas un droit. S'ouvrir à la grâce dans un confessionnal en se reconnaissant pécheur, c'est recevoir toute cette miséricorde et cette tendresse qui vient de Dieu. Puis, ça vient pas de nous, ça vient de lui. C'est se tourner vers Dieu pour nous abandonner à lui en mettant toute notre confiance en lui et non pas dans nos propres forces. Tant qu'on ne croit pas vraiment à l'amour de Dieu pour nous, il est normal que devant le péché et la tendance au péché, qu'on porte tous en nous, là, naisse la tentation parfois du désespoir, hein. On y tombe dans l'ennui, le dégoût. C'est normal aussi que des fois, il y ait en nous comme une espèce de complicité dans l'endurcissement, dans le péché, là. Puis un aveuglement qui finit par plus tenir compte du péché, on s'en rend même plus compte. Nous, on sait qu'un enfant craintif devant des parents puis des professeurs trop sévères et sans affection, ben, il est en quelque sorte acculé au mensonge. Au contraire, c'est quand il se sait aimé, pardonné, qu'il peut vraiment mesurer sa faute puis la regretter purement. Il mêle pas alors à ce regret de la peur puis de la diplomatie. Alors, nous ne devons plus être comme cet enfant-là, hein. Le Christ, en nous révélant l'amour du Père, est venu mettre dehors la crainte. C'est pas un appel au sentiment, là. Pas ça, c'est pas du sentiment, c'est l'expression même de la vérité. De la venue de Dieu parmi nous. Hein. Dieu est venu par amour, puis un amour ferme et solide. Hein. Vous êtes venus pour les pécheurs, me voici, pécheurs, devant vous. Et j'invoque la vérité de votre parole, Seigneur Jésus. Ça suppose, bien sûr, qu'on se paie pas de mots. Il faut que nous sachions réellement ce qu'est le péché et ce que c'est que d'être pécheur. Et nous n'avons pas à faire le fier devant Dieu. Pas du tout. Parce que nous savons réellement que le péché, c'est le mal suprême. Puis la miséricorde même de Dieu nous montre que le péché, c'est grave. Et que nous ne pouvons pas nous en arracher par nous-mêmes. Ça prend la miséricorde, l'amour de Dieu, pour nous inviter à se rendre compte vraiment. Nos péchés blessent le Christ dans les autres. Nos péchés blessent le Christ en croix. Il est vrai que le sens profond de l'histoire des rapports que Dieu a avec nous, c'est comme le dit Saint Paul, que la grâce a surabondé là où le péché a abondé. Non seulement malgré nos péchés, mais à cause de nos péchés, par le regret que nous en avons, puis plus encore par notre reconnaissance de la miséricorde de Dieu, là, nous pouvons nous laisser prendre toujours davantage par l'amour de Dieu, toujours davantage par l'amour de Dieu, hein, puis faire de l'histoire de notre vie là, une grande confession de sa miséricorde et de son amour. Il faut se confesser, oui. Tout le monde connaît le titre le plus célèbre des ouvrages de Saint-Augustin, les Confessions. Et ce mot veut dire évidemment un aveu de misère, une confession de faute. Mais il signifie aussi confesser la proclamation de Dieu devant les hommes. Je confesse que Dieu existe et qu'il est bon pour moi. C'est la louange de sa grandeur. Je te confesserai, Seigneur, devant les hommes, dit Saint-Augustin au début de son livre. Mais ces deux sens ne sont pas juxtaposés. Ces deux sens, là, confesser, liés l'un à l'autre. Et l'un ne va jamais complètement sans l'autre. C'est bien normal, hein? Se reconnaître pécheur humblement dans la lumière du Christ, c'est proclamer Dieu dans son attitude la plus profonde envers nous, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et son amour se montre avant tout dans toute sa force, toute sa patience et toute sa grandeur dans la victoire sur le péché. Puis cette victoire, c'est quoi? C'est notre libération. Cette victoire, c'est notre liberté. Cette victoire, c'est notre sainteté. Cette victoire de Dieu en nous, c'est notre seul vrai bonheur. N'hésitons pas à nous mettre à genoux dans la lumière de Dieu, dans un confessionnal. N'ayons pas peur. C'est là qu'est Dieu dans tout son sa tendresse et son amour, comme il est dans l'Eucharistie, comme il est partout, mais particulièrement là, près d'un prêtre, qui reçoit nos péchés et nous les pardonne au nom de Dieu.